Éternel, je te remercie parce que tu es le Dieu vivant. Je te remercie pour ta fidélité, pour le fait que chaque jour dans notre cœur, dans n'importe quelle situation, eh bien, si nous sommes à ton écoute, il y a toujours une parole qui vient de toi, une parole qui est là pour nous encourager, qui nous dit d'aller de l'avant, qui nous dit de ne pas regarder aux circonstances, mais qui nous dit de regarder à toi et de se confier en toi et d'avoir l'intelligence renouvelée, d'avoir les forces aussi physiques renouvelées. Et je te remercie, mon Dieu, pour cette semaine qui est passée, pour tout ce que nous avons pu vaincre, pour la semaine qui vient aussi, parce que, eh bien, Seigneur, il y a des combats, mais tu es celui qui nous donne la force et qui nous donne l'espoir. Et après le tourment, tu nous donnes l'endurance et l'espoir. Et je te remercie parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour ta parole qui va t'être annoncée aujourd'hui par Michel. Je crois que dedans, il y a des semences de foi pour chacun, et c'est à nous de les prendre et de travailler avec. Merci, Jésus, de bénir aussi et de fortifier ceux qui prendront les bonnes décisions ce matin, qui écoutent ce message sur Internet. Merci Jésus. Amen.
Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le net. Bonjour à ceux qui nous rejoignent à la télé. Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous propose une lecture dans Proverbes chapitre 18, verset 4, s'il vous plaît. Proverbes 18, 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Amen. Et il y a un autre texte qui dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il m'arrive souvent que des chrétiens m'écrivent ou me disent, mais Michel, tu fouilles trop dans toutes ces choses, ces mystères. Dieu s'enveloppe de mystères. Ça n'est pas très bien d'aller fouiller ces choses-là. Pour qui te prends-tu? Il faut arrêter. C'est dangereux, c'est imprudent. Bon. Dans 1 Jean 4, 17, il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Comment imaginez-vous que Jésus était quand il était dans ce monde? Un jour, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et ton Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître. Jésus était ici-bas la vie. Vendredi, je vous ai parlé de Jésus, la route. Le chemin. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur cette vérité. Jésus est la vie. La vie. Il était sur la terre un esprit, Dieu, dans un corps d'homme, et cet esprit et ce corps formaient un être vivant, une âme, un être. Qu'est-ce qu'il était du verbe être? Qu'était-il ce Jésus? C'est important puisque tel il est, tel je suis. Alors généralement, quand on demande, mais qu'était-il? Alors on nous fait une réponse théologique très mignonne, très belle, très vraie, mais bon, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il ne faut pas trop gratter, hein. C'est quoi parfaitement homme? C'est quoi parfaitement Dieu? Mes frères et sœurs, je vais développer cette idée ce matin. Jésus était en état de connaissance. Il était en état de connaissance. Il n'est pas venu ici-bas pour résoudre les mystères de la vie, pour chercher ces choses et philosopher là-dessus. Il est venu ici-bas pour vivre les mystères de la vie, pour vivre. Ça va faire bientôt 45 ans cette année que j'ai rencontré Jésus, et si quelqu'un me demandait aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus t'a appris de plus grand, de plus important, la chose la plus puissante que tu aies appris de Jésus, de plus noble, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je répondrais absolument sans aucune hésitation que Jésus m'a appris des choses au sujet des mots, M-O-T-S, des mots. Mes frères et sœurs, les mots ont un pouvoir. Il cache des secrets. Les mots sont des portes qui masquent ce qui est derrière. Les portes, c'est fait pour être ouvertes. Jésus, il vit dans nos cœurs, Et il nous inspire, si nous désirons qu'il nous inspire. L'autre jour, j'étais à table, dans la communauté, au château, au salon, et tout le monde, les enfants, tout ça. Et je regardais mon petit-fils Titi qui jouait avec sa tranche de jambon. Visiblement, il n'avait pas très envie de la manger. Et j'ai entendu Eric, son papa, lui dire « Mange !» On a tous entendu quand on était petit cette phrase, hein. Mais mange! Mange rien, cet enfant, c'est pas possible. À moi aussi, ma maman, quand j'étais petit, m'a dit, mange! Et le soir, elle venait dans ma chambre, et puis moi, j'aimais déjà beaucoup lire. Alors, je lisais des bouquins, surtout de Henri Verne, Bob Moran, je sais pas si vous vous rappelez de ça, vous avez connu ça. Et alors, le mystère là, de l'ombre de Jade et tout, c'est extraordinaire. Et puis, comme je n'avais pas le droit de lire à partir d'une certaine heure, je me cachais sous les couvertures avec une lampe de poche et je lisais. Et ma mère, elle venait contrôler, sachant tout cela, elle venait contrôler. Alors, elle voyait bien qu'il y avait une petite lumière sous les couvertures. Et alors, elle disait, « Dors !» J'ai des souvenirs très anciens. C'est vraiment bizarre, mais j'ai des images, des flashs, des souvenirs très anciens. Je me souviens, je revois un couloir immense, ça ne devait pas être si immense que ça, mais moi j'étais tout petit. Un couloir immense, ça ne devait pas être chez moi, parce que chez moi on n'a jamais eu de couloir comme ça. Ce n'était pas chez ma grand-mère non plus, donc je ne sais pas où c'était, ça devait être des amis à mes parents, ou je ne sais pas qui. Et je me vois là dans ce couloir avec ma mère qui me tient en dessous des bras comme ça, et elle essayait de me faire marcher et à un moment donné, elle a retiré doucement ses mains et elle a dit « Marche !» Et je me souviens que c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Je me souviens. Toutes ces pensées, mes frères et sœurs, elles ont traversé ma tête, mon esprit, quand Eric a dit à Titi « Mange !» Sa tranche de jambon. Vous savez, je crois que, étant donné que tous les jours depuis ce temps-là, je mange, je dors, je marche. Eh bien, je pense qu'il y avait un pouvoir dans les mots que disait ma maman. Jésus m'a appris quelque chose, un mystère. Parce que je vis ces mystères tous les jours. Le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots n'habite pas dans leur signification, mes frères et sœurs, mais dans leur qualité invisible. Le mot connaissance, par exemple, ça enferme beaucoup de choses, le mot connaissance. Alors, le pouvoir de la connaissance, il consiste à voir l'histoire en écoutant des mots, ou en les lisant. La connaissance, elle existe, mais c'est une trappe, une porte, c'est une trappe qui cache une entrée secrète. Vous pouvez voir la trappe, c'est le mot. Mais il faut encore ouvrir pour trouver ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a au fond. Il y a ceux qui aiment les mots. Ceux-là, non seulement ils trouvent les trappes, mais ils vont voir ce qu'il y a dedans. Et puis il y a ceux qui n'aiment pas les mots, qui ne lisent pas, n'ouvrent jamais un dictionnaire, ne cherchent pas. C'est pour ça que Jésus a aussi dit « Je suis la porte ». Il a aussi dit « Je suis la parole », les mots. À la tour de Babel, Dieu a confondu les langages, on connaît tous cette histoire. Mais quand Jésus est venu, lui, la porte, quelque chose s'est ouvert et il a illuminé les mots de chaque langue parce que lui-même, il est la parole. Et il s'est montré, il s'est révélé, il n'a pas fait de secret, il n'a pas fait de mystère, il a dit les choses les plus importantes qu'on doit savoir. Et nous pouvons connaître Dieu par la parole, la Bible, par les mots écrits dans la Bible, parce que ces mots ne sont pas seulement des mots, c'est les mêmes mots qu'emploient les païens. Mais c'est pas les mêmes mots. Quand même. Parce que là, ils sont esprit et vie. Pour les humbles. Écoutez bien ça. Si quelqu'un me pose la question, quel est ton nom? Eh bien, mon nom, c'est Michel Janton. Et quand on dit Michel Janton, ça permet de m'identifier. Vous êtes d'accord? Si vous allez chez les gitans, vous dites Michel Janton, ah! Ils savent ce que c'est. Si vous... c'est comme ça, hein? Mais ce nom, c'est mon nom terrestre. Et au ciel, j'aurai un autre nom, vous aussi d'ailleurs. Un nom nouveau qui est écrit sur un caillou blanc, vous trouvez ça dans Apocalypse 2, 17. Je recevrai ce caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, un nom que personne ne connaît si ce n'est moi. Voilà ce qui est écrit. Ce sera un nouveau nom, c'est-à-dire que ce sera un nom qui n'aura rien de commun avec le poids de l'histoire de Michel Janton. Au ciel, on m'identifiera plus sous le nom de Michel Janton. Au ciel, on m'identifiera avec ce nouveau nom. Jésus m'identifie déjà comme ça. Jésus vous identifie déjà comme ça, pas avec votre nom terrestre. Vous êtes né et vous avez une identité qui vous colle à la peau à cause de ça. Pas à cause de ça, mais c'est votre étiquette. Et tout le monde vous connaît comme ça, Jésus ne vous connaît pas comme ça. Vous-même, vous aurez un nouveau nom, ainsi tout sera nouveau. Et déjà pour Jésus, tout est nouveau. Maintenant, il nous faut apprendre nous-mêmes à vivre dans cette nouveauté. Vous savez, c'est à travers les mots que nous apprenons ici-bas comment tout fonctionne, comment tout marche. Eh bien, il en sera de même dans le monde futur. Moi, je ne me fais pas de soucis au sujet. Est-ce que je vais comprendre ce qu'on va m'expliquer? Est-ce que ça va pas être un peu compliqué? Est-ce que... Non, ça va être normal. Il n'y a plus besoin aujourd'hui que ma maman me dise « mange » ou « dors » ou « marche ». Il n'y a plus besoin. Parce que je sais pourquoi ces fonctions sont importantes, pourquoi ces fonctions sont vitales par l'expérience. Et depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons appris par les mots de la Bible ce que nous devons être et ce que nous devons faire, ce que nous sommes et ce que nous faisons par les mots de la Bible. Je crois que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je crois qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Je crois que je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Je crois qu'il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire par les mots que je trouve là dans le livre. Il doit arriver que votre maturité vous conduise, vous place dans la position où les mots, les lois, les ordres ne sont plus nécessaires. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand on voit des gens qui sont des chrétiens légalistes et toutes ces choses, ce sont des pauvres malheureux. Ils sont encore très bas dans le niveau de leur spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi, mais on n'a plus besoin de nous dire « mange, bois, fais pas ci, fais pas ça ». En fait, c'est un signe de rébellion ou un signe de manque de maturité s'il faut encore et encore et encore redonner des lois, redonner des principes, redonner des ordonnances, rappeler aux gens qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. En lisant les mots prononcés par Jésus, en écoutant les mots de Jésus quand ils sont prêchés, vous avez avec le temps assimilé les intentions qui sont contenues dans ces mots, la vie qui est contenue dans ces mots, et votre vie est devenue ces mots. Ces mots sont devenus votre vie. Ces mots ont pris vie en vous. Jésus, lui, était la parole faite chair. Et maintenant, eh bien, c'est vous qui êtes devenu la parole faite chair. Si du moins c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime. Ces mots sont devenus vous. Ces mots sont vécus par vous. Les intentions cachées de ces mots sont vécues par vous. Et c'est puissant. Quand on dit Amen, ou quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas des mots magiques. Cependant, ils signifient quelque chose de très puissant dans le monde de l'esprit, mais aussi dans le monde de la matière, très puissant. Quand on dit Amen, c'est comme si on dit Abracadabra. Ah, je vous choque là, hein. Abracadabra, c'est un mot hébreu qui signifie qu'il en soit ainsi. C'est comme ça. Les magiciens, ils ont repris ce mot pour dire abracadabra. Amen. C'est que, c'est, voilà, qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi on dit Amen à la fin de notre prière. Quand on dit au nom de Jésus, ça veut dire tout ce que je viens de dire, je le dis de la part de Jésus. Donc il y a une puissance parce que tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas qu'un mot, le mot Amen, ou au nom de Jésus, ce n'est pas un mot, il y a un esprit derrière ces mots. Et si votre esprit n'est pas en communion, en cohérence, je préfère dire, avec l'esprit du mot, alors rien ne se passe, rien ne se passe. Combien de gens prononcent le nom de Jésus ? J'ai vu des gens défiler pour le mariage gay avec des pancartes où c'était marqué Jésus. Ça a attiré mon attention puisque j'ai un regard sélectif. Donc j'ai vu cette affiche. Ah, Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est écrit ? C'était écrit Jésus avait deux papas. Quelle honte ! Voyez, ils emploient le nom de Jésus, mais quel esprit est derrière ? Vous voyez ? Alors ils peuvent toujours dire au nom de Jésus, il n'y aura rien. Pas d'action de la part de Jésus. Il doit y avoir en vous l'empreinte mentale et spirituelle du mot. Le nom de Jésus doit être gravé dans votre mentalité. Sinon, ça ne sert à rien. Vous pouvez le prononcer, le dire, l'invoquer, tout ce que vous voulez. Rien. Il doit être gravé dans ce que vous êtes en tant que nouvelle créature, en tant que personne née de nouveau. Ce matin, si je dis le mot école, vous ne pensez pas à la Tour Eiffel, hein ? Vous pensez à quoi ? Vous pensez à l'école. Et je dis que ceux qui ont été des bons étudiants, quand ils pensent école, ils pensent réussite des examens, ils pensent éloge de leurs parents, mais ceux qui ont été des mauvais étudiants, qui ont eu la flemme, qui se donnaient pas la peine, eh bien, ils vont associer toute leur vie au mot école, le mot cancre, le mot échec, le mot critique, le mot jugement. Le mot moquerie, négatif, vous voyez, pourtant le mot. Mais comment est-il ancré en vous ? Par quel esprit est-il ancré en vous ? Quel esprit vous avez mis dans ce mot ? Alors, qu'est-ce que je cherche à vous dire ce matin ? Eh bien, que tous les moments de votre vie, mes frères et sœurs, sont stockés en vous sous forme de mots. Sous forme de mots. Et si un mot est prononcé par quelqu'un, ça réactive quelque chose en vous. Votre passé, vos expériences, vos joies, vos peines, simplement parce qu'un mot est prononcé. Les gens de ce monde, ils sont emprisonnés dans les mots. Ils sont pris comme des mouches dans une toile d'araignée de mots. Et nous aussi, mais il y a une différence. Le sang de Jésus a tout effacé. Et même si nous écrivons notre vie avec les mêmes mots que les gens emploient, en nous, ces mots, ils sont salés du Saint-Esprit. C'est plus le même esprit. Ça ne produit plus la même chose. Si autrefois, par exemple, vous avez été un voleur, si quelqu'un dit « voleur », si vous entendez le mot « voleur », vous savez que pour vous, et c'est une réalité, ce mot « voleur » est couvert par le sang de Jésus, par le mot « pardon ». Oui ou non ? Ça ne vous touche plus, vous n'êtes plus ce mot. Si je dis « drogue », vous savez que ce mot est couvert par le sang de Jésus, il est couvert par son pardon, et ça ne vous touche plus. Alors, il y a beaucoup de mots comme ça qui sont chargés de souffrance, et ils sont placés sous le nom de Jésus parce que Jésus a pris nos souffrances. C'est drôle qu'en français, le mot « mot » et le mot « mot », c'est la même chose. Vous voyez que la langue française est riche. Il n'y a pas que l'hébreu. Ou le grec. Maintenant, il y a un problème quand même. Parce que vous pouvez retomber dedans, vous pouvez retomber dans le piège. Et là, c'est plus difficile d'en sortir. C'est plus difficile. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Premièrement, parce que vous avez goûté autrefois au monde. Ça vous a mis dans un piège de mots, dans une toile d'araignée. Et chaque fois que il y a du négatif là-dedans, il y a du faux, il y a une connaissance erronée. Et ensuite, vous avez goûté aux choses de l'esprit, vous avez goûté à Jésus. Jésus a effacé tout ça, il a reconstruit tout ça en vous. Et maintenant, vous êtes esclave de Jésus-Christ, vous êtes dans la vie avec Jésus-Christ et vous le suivez, lui, tout est devenu positif, c'est différent. Alors, si vous êtes repris par le piège des mots négatifs, c'est que vous avez vous-même tissé la toile d'araignée. Vous avez été l'araignée et vous êtes la mouche. Parce que le diable ne pouvait pas faire ça. Parce que Jésus vous protégeait. Le diable ne pouvait pas le faire. Il pouvait juste vous tenter de tisser la toile. Et vous avez succombé à la tentation. Mais le diable ne pouvait pas construire cette toile. C'est vous qui l'avez faite. C'est vous qui avez fait votre propre piège. C'est vous-même qui avez joué à l'araignée. Et alors, vous êtes pris. Et Jésus a laissé ça parce que vous aviez donné votre parole à Dieu dans les eaux du baptême et vous n'avez pas tenu cette parole. Vous voyez encore des mots. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, il y a des mots pour s'en sortir. Il y a des mots. Quel mot vous permettra de rompre la toile d'araignée? Quel mot va vous permettre de rompre le piège dans lequel vous êtes mis? Quel mot vous permettra de rompre avec le lien des mauvaises habitudes? Quel mot? Quel mot vous permettra de rompre avec votre identification bornée? Quel mot? Il n'y a au monde que deux mots que vous pouvez prononcer dans cette situation. Que deux mots. Ces deux mots-là, ils ont chacun trois lettres. Des tout petits mots. Soit vous dites un de ces mots, soit vous dites l'autre de ces mots. Ces deux mots, dans votre situation, sont les plus forts que vous puissiez prononcer. Les chrétiens vont penser, c'est Jésus, il faut dire Jésus. Non, c'est pas ça. Arrêtez d'être des TTTS. Qu'est-ce que ça veut dire TTTS? Ça veut dire très 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 spirituel. C'est-à-dire tellement spirituel que vous planez à 100 à l'heure au-dessus des réalités. Vous n'êtes pas dans la réalité. Ces deux mots dont je vous parle sont très simples. Parce que vous voyez, Jésus la porte. Jésus la parole. Jésus le chemin. Jésus la vie. Jésus est aussi vrai. Il a dit, je suis la vérité. Et la vérité, c'est qu'il vous aime toujours, mais qu'il attend de vous la vérité. Vous avez tissé votre propre toile de malheur. Eh bien maintenant, il attend de vous la vérité. Sinon, il ne vous en sortira pas. Vous êtes retourné à ce que vous aviez vomi. Vous avez tissé la toile d'araignée dans laquelle vous êtes pris. C'est possible. Beaucoup de chrétiens font ça. Mais voilà, ils vous aiment toujours et ils vous appellent. Alors, il n'y a que deux mots. Votre salut dépend du mot que vous allez dire ou votre perdition. Ces deux mots sont oui ou non. Je veux que tu dises ce matin l'un ou l'autre de ces mots en toute conscience, en toute connaissance de choses. Je voudrais que tous ce matin vous vous leviez. Et vous qui êtes sur Internet, là, je ne vous demande pas de vous lever, surtout si vous écoutez le message dans la voiture, il vaut mieux pas vous lever. Mais soyez sincères devant votre Dieu. Et que chacun réponde à ces questions que le Seigneur vous pose ce matin. Ce matin, le Seigneur te dit, mon enfant, et tu vas répondre à haute voix, ce matin, ici, dans cette chapelle, et toi aussi qui écoutes sur Internet ou qui regardes ce film. Mon enfant, te dit Jésus, est-ce que tu crois en moi?
Oui.
Est-ce que tu crois encore dans mon amour?
Oui.
Crois-tu que je te pardonne?
Oui.
Veux-tu marcher en nouveauté de vie avec moi?
Oui.
Alors, le mot que tu viens de dire, à le pouvoir de la création. Tu peux t'asseoir, mon frère, ma sœur. Tous les deux ont le pouvoir de créer des liens, les deux mots. Ou de détruire des liens, les deux mots. Le mot « oui » a le pouvoir de créer un lien avec Jésus. Le mot « oui », il a aussi le pouvoir de casser les liens avec le mal. Est-ce que tu crois ça? Le mot « non » a le pouvoir de créer le lien avec Satan. Le mot « non » a le pouvoir de briser le lien avec Jésus. Est-ce que tu crois ça? Vous voyez, c'est des mots. Mais ce sont simplement des portes, des trappes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le mot est important. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans le Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Dieu sait très bien que tu as le désir de faire le bien. Il sait très bien que tu n'en as pas la force. Mais si seulement tu en as le désir, il t'en donnera la force. Mais il faut encore que tu dises oui, de tout ton cœur. Tout ce que tu crois que tu vas pouvoir faire de bien dépend du oui qui est enfoui au fond de toi. Ce oui, Jésus l'a caché en toi dès avant la fondation du monde. Et tout ce que tu penses ne pas devoir faire est lié à un non enfoui au fond de toi dans le même passé. Mon frère, ma sœur, même si les mots disent ce que nous sommes beaucoup plus complexes que ce qu'ils expriment au premier abord. Il faut les ouvrir, les mots. Il faut aller chercher derrière. Dans les mots que tu dis, il y a une connaissance, mais il y a aussi des intentions dans les mots. C'est pourquoi tu dois faire attention aux mots que tu dis. Je ne pourrais pas y arriver. Ce n'est pas possible, c'est trop dur, j'y comprends rien, mais pourquoi moi? Parce qu'en fait, les mots sont esprit, les mots sont prière. Les mots que tu dis en tant qu'enfant de Dieu, si tu es en communion, en cohérence avec les mots de Jésus, eh bien ces mots que tu dis sont lavés dans le sang de Jésus, purifiés. Alors que les mêmes mots que tu peux les prononcer, les mêmes mots, ou les simples mortels peuvent prononcer les mêmes mots, et ils sont tout brouillés, ils sont tout déformés, ils sont tout salis parce qu'ils ne sont pas couverts par le sang de Jésus. Ils sont encore empreints de péché et de mauvaises intentions. Vous voyez, mes frères et sœurs? C'est pourquoi les gens sont dans la confusion. Ils ont des bribes de vérité, mais c'est la confusion qui règne. Alors plus tu vas vivre dans la lumière, moins tu vas être confus. Pardon. Vivre dans la lumière, c'est vivre en Jésus, vivre dans sa parole, vivre selon sa parole, vivre selon les mots, selon les intentions qui sont dans les mots de Jésus. C'est ça, vivre dans la lumière. Et même quand tu seras dans l'adversité, tu pourras être en paix parce que tu sauras que l'adversité, elle te sert à monter, à grandir, à te fortifier. Parce que tu sais que tu as une réelle autorité, tu le sais. Tu sais que tu peux l'utiliser. Et quand tu es dans des cas tout à fait désespérés où tu ne sais plus même quoi demander, eh bien tu peux avoir recours à la langue miracle. Tu peux parler en langue, disant ainsi des choses qui te semblent être des mystères. La Bible dit, quand tu parles en langue, c'est des mystères que tu dis à Dieu. C'est des mystères pour qui? Pour toi, mais pas pour Dieu. Ça te semble être mystérieux, mais ces choses que tu dis en esprit sont comprises par Dieu. Ce sont des mots miracles qui, eux, sont toujours exaucés. Toujours. Alors, mes frères et sœurs, quand la Bible nous dit « oui, nous avons tout pleinement en Jésus », ce n'est pas un vain mot. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ça vaut la peine de chercher à connaître les mystères, non ? Plutôt que d'être là comme, hein, comme on dit, la foi du charbonnier. Ouais, je crois. Ouais, je crois. Oui, bon alors, ça change quoi? Ça change quoi? Il faut chercher, puisque Jésus a dit, je suis la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Qu'est-ce qui est derrière la... Jésus a dit, je suis la porte. C'est une parole qui est porte. Ah, Et une parole qui est porte et qui est en même temps lumière et qui est en même temps vie et tout. Mais ça vaut la peine de chercher qu'est-ce que c'est ces mots, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, où est-ce que ça nous conduit si j'ouvre cette porte, qu'est-ce qui va se passer si je cherche à comprendre le mot, la signification. Je prends le dictionnaire, je cherche à savoir. Après, ça me suffit pas, alors je m'achète une online Bible, puis je cherche avec le truc Strong pour pouvoir trouver la signification du mot vraiment qui avait été employé dans le grec ou dans l'hébreu. Moi, à 63 ans, j'ai 63 ans mardi. Eh bien, j'ai plus le temps d'apprendre le grec et l'hébreu, pense-je. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent encore, moi non. Bon. Mais il existe tout, tout est à notre portée, tout est là, on a tout. Dans notre génération, c'est extraordinaire. Alors, franchement, si ça va pas, ça va bien?
Non.
Pourquoi?
Oui, bien parce qu'il m'arrive.
Non. Mais, emploie ta puissance, emploie la puissance des mots, tu es tel qu'il est dans ce monde, alors tu es la parole. Tu es la porte, tu es la lumière, tu es toute cette puissance, toutes ces choses cachées, c'est en toi, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça vous donne pas un chemin? Est-ce que c'est pas une vérité qui vous montre un chemin que vous pouvez emprunter en vous disant, waouh, j'avais jamais pensé comme ça. Maintenant, je vais chercher dans ce sens-là, plutôt que de dire simplement, oui, je crois. Oui, je crois, je crois. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces choses que tu m'as données. Merci, Seigneur, de me permettre de les donner à mes frères et sœurs et aux milliers qui viennent écouter sur Internet et sur la télé aussi. Bénis chacun et chacune qui est de bonne volonté et qui veut se donner un peu de peine pour chercher afin de trouver dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen.